Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bienvenue à Remue-ménage en ce mercredi de soleil. Je voulais vous demander une question. Est-ce que vous avez gardé vos souvenirs d'école? Est-ce que vous les traînez derrière chaque déménagement? Est-ce que vous avez tout jeté au feu le jour où vous avez décidé de ne plus jamais retourner à l'école? Eh bien, paraît-il que vivre sans souvenirs, c'est comme si on veut broder sans canevas. Si vous n'avez pas de canevas, vous n'avez rien, il ne reste rien, c'est fini, c'est le néant. Eh bien, c'est une dame de 69 ans qui a confié ce sentiment à toute une équipe de chercheurs qui ont constitué une magnifique exposition qui s'appelle « Les cahiers au feu de l'usage des souvenirs d'école » que vous pouvez voir à l'annexe du musée d'ethnographie à Conches et dont nous allons parler aujourd'hui dans Remue-ménage. À tout à l'heure.
Bobeira, pega a dama pela mão, roda ela no pessoal fazendo bosta no salão. Mas eu aqui, olha, ouvido no ouvido, é agarrada, é escondido na sombra do lampião. Mas eu aqui, olha, ouvido no ouvido, é agarrada, é escondido na sombra do lampião. Eu quero é balançar, eu quero é peneirar, eu quero é chamegar, meu Deus, como é tão bom.
Eu quero é balançar, eu quero é peneirar, eu quero é chamegar, meu Deus, como é tão bom.
Essa morena é como corda de viola, quanto mais a gente arrocha, mais ela dá tom. Mas ela dá tom, mas ela dá tom, vamos chamegar nesse corpo. Eu quero é bala balança, eu quero é pena, pena, não. Eu quero é chamega, meu Deus, como é tão bom.
Eu quero é balançar, eu quero é
pena,
eu quero
é chamega,
meu Deus, como é tão bom.
Essa morena é como corda de viola, quanto mais a gente arrocha, mais ela dá tom. Mas ela dá tom, mas ela dá tom, vamos chamegar nesse forró que tá tão bom. Quem dá bobeira, pega a dama pela mão, roda ela no pé só fazendo bosta no salão. Mas eu aqui, olha, ouvido no ouvido, é agarrada, é escondido na sombra do lampião. Mas eu aqui, olha, ouvido no ouvido, é agarrada, é escondido na sombra do lampião. Eu quero é bala balançar, eu quero é pena, peneira, eu quero é chame, 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 meu Deus, como é tão bom.
Eu quero é balançar, eu quero é
peneira,
eu quero chame, chame, meu Deus, como é tão bom.
Essa morena é como corda de viola, quanto mais a gente arrocha, mais ela dá tom. Mas ela dá tom, mas ela dá tom, vamos chamegar nesse forró.
Mas ela dá tom, mas ela dá tom, vamos chamegar.
Atenção, gente grande, a Mangueirinha vai contar tudinho aqui pra Dindinha. Me diz, menino, o que tu leva na mão? Menino, me diz o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão. Menino, me diz o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão. Diz aí.
Leva o espírito da minha Dindinha, a vida que é minha e minha lição. E trago guardado de punho cerrado, o tal do danado do meu coração.
Beleza, que tu vai fazer com ele, hein?
O que eu vou fazer com ele, hein?
Que tu vai fazer com ele, hein?
Menino, me diz o que tu leva na mão.
Beleza, gente?
Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Menino, diz, menino, diz.
Menino, me diz o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Menino, que diz, você me faz feliz. Meu doce fruto que vem da raiz. Faz desse mundo meu criança e leva na tua andança a paz do meu coração. Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Menino, me diz o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão. Menino, me diz o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Conta pra mim, conta.
Leva o espírito na linha.
Vai fazer com ele, hein?
O que eu vou fazer com ele, hein?
Que tu vai fazer com ele, hein?
O que eu vou fazer com ele, hein? Vou pegar ele todinho.
Ah, é?
E coberto de carinho, vou te dar com devoção.
Obrigada pelo axé, criançada. Menino, me diz o que tu leva na mão.
Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Menino, diz, menino, diz.
Menino, me diz, o que tu leva na mão. Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Me diz, menino, me diz, menino.
Menino, me diz, o que tu leva na mão.
Leite. Ninguém segura a Mangueirinha.
Me diz, menino, o que tu leva na mão.
Olha eles aí, minha gente.
Menino, me diz, o que tu leva na mão.
C'était Alcione, une chanteuse brésilienne, vous l'aurez reconnue. On s'est tout de suite mis l'ambiance de chanter avec les enfants parce que nous partons dans le monde des enfants et des adultes, bien sûr, parce qu'on y est tous allés une fois, c'est-à-dire celui de l'école. Puisque nous allons parler cet après-midi en compagnie de plein de gens, puisque une fois n'est pas coutume, nous sommes 2, 4, 6 dans le studio de Radio Zone, et ça, faut le faire. Et nous allons nous retrouver donc pour discuter de cette merveilleuse exposition qui s'appelle « Les cahiers au feu, usage des souvenirs d'école », qui a lieu actuellement et jusqu'au 2 septembre. Vous avez encore plein de temps pour aller la voir, mais ça vaut la peine d'y retourner plusieurs fois. Qui donc traite des souvenirs d'école, qu'en fait-on, comment les organise-t-on, les garde-t-on, etc. Et c'est une très longue histoire que nous allons évoquer avec les artisans de cette exposition que je vais vous présenter. Alors, tout le monde travaille dans un groupe qui s'appelle La Criée. La Criée, c'est censé être un sigle, et pourtant ça donne un très bon nom à soi tout seul, qui signifie « Communauté de recherche interdisciplinaire sur l'éducation et l'enfance ». Et qui participe à cette communauté de recherche? Eh bien, tout d'abord, Charles Magnin, qui représente le service de recherche sociologique du département de l'instruction publique à Genève. Christine Détrat, qui est membre du musée d'ethnographie à Genève. Aline Lisberger, qui a fait la mise en espace de l'exposition. Chantal Renveffry, qui travaillent aux archives du département de l'instruction publique. C'est ceux qui sont et celles qui sont ici présents cet après-midi. Il y en a encore d'autres qui participent à cette communauté. Peut-être qu'on aura l'occasion de nous les présenter en cours de route, mais comme ils ne sont pas ici, je ne peux rien dire. Alors je dis d'abord bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Soyez un petit peu plus gai quand même, hein. Il fait beau. Arrêtez d'être si triste à ces micros.
C'est pas parce qu'on parle d'école qu'il faut être triste.
Exactement, exactement. Bon, ça dépend des souvenirs qu'on a. Visiblement, sur cette table, il y en a qui parleront de leurs souvenirs d'école avec gaieté, donc avec tristesse, eux qui ont détesté l'école, qui l'ont adorée. On verra ce que ça donne quand on en cause. Alors peut-être, évidemment, la première chose à évoquer, c'est bien sûr d'où est venue l'idée de faire cette exposition. Parce qu'il y avait déjà eu une première exposition où on évoquait l'école il y a 100 ans. Charles, non ? Alors pourquoi faire une deuxième exposition sur l'école ?
Alors, une deuxième exposition sur l'école, surtout sur une époque différente, celle de 1986 portait sur la fin du 19e. À cette occasion, nous avions demandé à des gens s'ils avaient des documents ou des objets relatifs à la fin du 19e. Nous avions été très intéressés par ces documents parce qu'ils nous donnaient une autre perception de l'école que celle qu'on peut trouver dans les documents officiels. Et nous avons décidé, en automne 1988, de recommencer une campagne, mais cette fois à très grande échelle, et en donnant comme date limite pour nous donner des objets ou nous en prêter, 1960. Si bien que la collection d'aujourd'hui diffère de celle d'hier, puisque maintenant nous avons beaucoup de choses sur la première moitié du XXe siècle. La campagne demandait aux gens s'ils voulaient nous donner ou nous prêter, et heureusement qu'on a pensé à demander des prêts et pas seulement des dons, parce qu'en réalité, les gens sont très attachés à leurs souvenirs d'école, et dans la collection, il y a 60% de dons, mais 40% de prêts, donc de choses dont les gens ne veulent pas se séparer.
Mais peut-être avant de parler de toute cette immense collection d'objets que vous avez réussi à obtenir par cette campagne, peut-être vous pourriez nous parler de comment se fait-il que des gens qui ont des démarches si différentes aient réussi à collaborer entre eux. Comment s'est fait la rencontre des gens de la CRIER ?
Alors ça, c'est une très très longue histoire. En fait, ça s'est fait, au départ, ça s'est fait très facilement parce qu'il s'agissait juste d'avoir une idée, une envie de faire quelque chose ensemble. Les difficultés sont, et l'intérêt peut-être est apparu plus tard quand on s'est mis à vraiment faire quelque chose ensemble. Au départ, c'était l'idée des gens qui dépendent du service de la recherche sociologique d'organiser cette campagne. Donc, qui dit recherche d'objets, inventaire d'objets, on se tourne un peu vers les gens des musées, donc vers nous qui avions envie de... Vous savez, au musée d'ethnographie à Conches, on est un peu taxé de... On fait de l'ethnographie régionale, donc les gens pensent beaucoup aux charrues, aux vieux outils, etc. Donc on est tout de suite très ruraux dans le...
Folklorique.
Donc nous, on essaye d'être aussi dans le présent et aussi dans l'urbain. Et il nous semblait que nous avions là une occasion unique, de faire ce pas dans la ville et dans l'aujourd'hui. Pour les autres personnes, pour Aline qui est ici, je crois qu'elle va en parler tout à l'heure. C'est évident que dès qu'il s'est agi de monter une expo, il a fallu trouver des gens qui puissent s'atteler à la mise en espace de ces documents qui, dans un premier temps, n'étaient pas très spectaculaires, des cahiers, des manuels, etc. Donc on a eu recours, on a demandé à Aline, qui avait détesté l'école, si elle voulait bien participer. Et en fait, on se rend compte, plus le travail avançait, plus on se rendait compte que son intervention était absolument essentielle. Et aujourd'hui, qu'on voit l'exposition marcher très bien, on se rend compte que sans l'intervention d'Aline, on aurait fait le même propos, mais je pense que les gens n'auraient pas réagi, évidemment pas réagi de la même façon. C'est pour ça que pour nous, la participation d'Aline est plus qu'importante.
Alors on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Il y a aussi des gens de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation qui ont collaboré. Ils ne sont pas là ce soir, mais je vois qu'ils sont dans la liste. Quel apport ont amené les gens de la FAPC ?
Disons, essentiellement, ce sont des historiens de l'éducation et des philosophes de l'éducation. Alors, je crois que l'intérêt en travaillant avec eux, c'est de renforcer un peu la composante histoire de l'éducation dans ce groupe de travail. Dans le cas particulier, je crois que leur contribution a été plus limitée que dans le cas précédent, ou peut-être que dans d'autres expositions qui seront plus proprement historiques. Alors nous aurons affaire aux historiens et aux philosophes pour nous aider à penser.
Quant à vous, Chantal Renevet, vous êtes l'archiviste du département de l'instruction publique. Est-ce que vous aviez beaucoup de choses à amener, vous aussi, dans la campagne de collection d'objets, de souvenirs ?
Alors en fait, pour moi, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que dans une collection d'objets personnels et privés, je viens chercher un certain nombre de choses. En tant qu'archiviste, ma tâche prioritaire, c'est de m'occuper des documents que produit l'administration, l'école, les fonctionnaires, dans tout ce qu'ils ont de positif ou de négatif dans l'imagerie populaire. Et puis de voir une fois de l'autre côté du miroir, j'ai presque envie de dire, ce que donne concrètement le résultat d'une politique scolaire, d'une démarche scolaire, d'un nouveau programme, de voir ce que ça donne concrètement, quels sont les objets qui en ressortent, et puis aussi de voir ce qu'en disent les gens quand ils ont tout oublié. Par ailleurs, il faut aussi dire, j'ai pris un peu le train de la criée en marche, si vous me passez l'expression, dans le sens où ma collaboration à la première exposition sur la loi de 1886 s'est faite un peu de loin, et qu'ensuite on s'est dit qu'après tout une archiviste ça pouvait servir ne serait-ce que pour des questions d'inventaire, de classement, et puis qu'en fait, pourquoi pas, elle pourrait amener ses connaissances sur l'histoire officielle de l'école.
Voilà, alors on a fait un peu le tour des différentes démarches et qui ont abouti à une collaboration qui a duré longtemps. Combien de temps on prend pour préparer une exposition de cette taille et avec la démarche que vous avez faite ?
Automne 88, printemps 90, ça fait quoi, une année et demie ? Une phase de récolte d'objets, une phase d'inventaire qui a été faite par Juliette Michaelis, qui n'est pas ici ce soir, mais qui est aussi dans la criée. Et qui a rencontré beaucoup de gens au cours de cette campagne. Une longue phase de mise au point d'un scénario où on réfléchit à toutes les possibilités où on essaie de définir ce qu'on veut montrer. Puis ensuite, une phase de réalisation qui est aussi relativement longue, non, Christine ?
Oui, je crois que... Bon, nous comptons pour une exposition maison, pour une exposition qui n'est pas reprise, qui n'a pas déjà été conçue par d'autres et montée par d'autres, un minimum d'une année à deux ans de préparation. Alors bon, l'idée de l'expo, elle peut dater de bien plus longtemps, mais à partir du moment où ça devient une priorité... étant donné qu'on ne peut pas laisser tomber tous ces autres projets, oui, je crois qu'il faut une bonne année et demie. Mais pour l'exposition Les Cahiers au Feu, moi j'ai l'impression qu'on a dû travailler très très vite, parce qu'en fait on est parti sur un matériel qu'on ne connaissait pas, puisque les objets arrivaient à mesure qu'ils étaient inventoriés alors qu'on travaillait déjà dessus. Donc, c'était souvent, on part de trésors ou de poubelles qu'on connaît déjà. L'inventaire existe, donc il s'agit d'aller rechercher des illustrations. Tandis que là, c'était une démarche totalement inverse. C'est-à-dire que les choses arrivaient, puis on se disait, à partir du moment où elles arrivaient, à partir du moment où on rencontrait les gens qui nous les donnaient, naissaient des idées et des envies quant au scénario.
Donc alors reprenons depuis ce moment-là, c'est-à-dire qu'à partir du petit papier que vous avez fait circuler dans tous les ménages genevois, ça s'est limité au canton de Genève donc.
Oui, ça s'est limité au canton de Genève.
Voilà. Donc vous avez reçu une masse d'objets, beaucoup d'objets ?
En six mois, on a reçu à peu près 10 000 documents, des cahiers, des manuels, des photos de classe, des affaires scolaires, du petit matériel scolaire, des plumes, des becs, des ardoises, des gommes, des buvards, des essuie-plumes.
Donc tout était bon.
Tout était bon pour nous, oui. Nous sommes la poubelle idéale. Et 450 personnes ont pris contact avec nous pour nous donner ces objets. Nous avons ensuite rencontré près de 250 de ces personnes. Souvent, on a reçu des choses par la poste. Là, on n'a pas repris contact, mais souvent, Juliette et Christine également sont allées chez les gens discuter avec eux autour de ces objets.
Alors, qui, en général, vous envoyait ces objets? Est-ce que c'était des personnes âgées qui, depuis longtemps, avaient conservé ces souvenirs? Est-ce que c'était des personnes relativement jeunes? Bon, vous aviez fixé la barrière de l'année 60, 1960. Mais bon, ça a pu varier.
Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne fixerait pas cette barrière de 1960 parce qu'elle a... On s'est rendu compte, plus le travail avançait, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de sens, qu'elle ne se justifiait pas du tout. Mais les gens qui ont répondu le plus massivement, c'était des vieilles dames. Des personnes qui ont pas loin de 80 ans aujourd'hui. Alors, à cela, plusieurs explications. Peut-être qu'elles ont plus de temps pour regarder ce qui tombe dans leur boîte aux lettres. Qu'elles avaient là une magnifique occasion de prendre contact, de nouer un lien. C'était souvent des dames seules. Donc, la majorité, ce sont des dames âgées qui vivent seules.
Est-ce que c'était des mères de famille aussi, souvent, qui ont gardé pas seulement leurs objets, mais les objets de leurs enfants ?
Oui, mais alors là, on entre dans des cas très dramatiques parce qu'en fait, les mères de famille gardent les objets de leurs enfants dans le premier moment, c'est-à-dire l'école enfantine, c'est les mamans qui gardent, ça c'est évident. Les mamans gardent ses affaires avec les leurs. Et puis, à un moment, un déménagement, le décès, etc., l'enfant retrouve, au fond, c'est 30 ans plus tard ou plus, retrouve ce que sa mère avait conservé de lui. Là où les mères de famille nous ont donné les affaires de leurs enfants, comme ça, d'elles-mêmes, c'était, je dis, des cas dramatiques parce que c'était, quelques cas d'enfants décédés. Ou... Non, autrement, je crois qu'on est propriétaire, à partir de l'école primaire, on est propriétaire de ces souvenirs d'école. Donc ce sont les gens qui nous ont donné et avaient conservé principalement leurs choses, à quelques exceptions près dont on pourra parler tout à l'heure.
Est-ce que ces objets avaient justement beaucoup voyagé, si on peut dire, dans le sens où, là, vous dites, par exemple, les mères, à un moment donné, avaient gardé pour elles, ensuite les enfants les ont retrouvés, puis les enfants, est-ce qu'ils sont encore passés à quelqu'un d'autre? Il y a aussi, quand on déménage, où les gardaient-ils? Est-ce qu'ils les consultaient souvent? Est-ce que c'était mis comme des bibelots? Enfin, quelle place tenaient ces objets dans leur vie quotidienne à partir du moment où ils les avaient gardés?
Je crois une place symbolique très importante. C'est-à-dire que c'est une des choses qui nous a beaucoup frappé dans la préparation de cette exposition. C'est qu'au fond, le petit papillon, le dépliant dans lequel nous demandions aux gens s'ils avaient des souvenirs d'école ou d'enfance, ce petit papillon a ravivé leur mémoire. Mais alors, ces choses ne sont pas très enfouies ni disparues, puisqu'il suffit au fond d'un petit papier, comme ça, un jour dans votre boîte aux lettres, pour vous rappeler que vous avez ces choses. C'est donc qu'elles ne sont pas très loin dans votre tête, et donc que vous allez les rechercher. Mais vous allez les rechercher dans votre grenier, dans votre cave, peut-être certaines de ces choses dans vos tiroirs de commode ou en haut de l'armoire, comme on dit. Parce que, bien sûr, on a eu des problèmes de place au fil des déménagements. On a eu le sentiment que la place se réduisait. Et donc, on a trié ces choses et on les a réparties dans la maison. Il y aurait d'ailleurs tout un travail intéressant à faire. C'est Bachelard qui en parle un peu dans la poétique de l'espace. Sur les lieux dans lesquels les gens conservent les choses. Et Bachelard insiste beaucoup sur l'existence même de ces lieux, presque indépendamment de ce qu'il y a dedans. Il dit par exemple des immeubles contemporains, en les opposant aux maisons familiales de jadis, qu'ils sont oniriquement incomplets. Il veut dire par là que la part du rêve dans une maison entièrement horizontale et qui n'a plus la verticalité des maisons anciennes, avec des espaces très distingués, avec des possibilités d'enfouissement ou au contraire de mise au-dessus de soi dans un grenier, sont des maisons symboliquement incomplètes, oniriquement incomplètes, qui ne favorisent pas la rêverie. Et il attache énormément d'importance à la rêverie par rapport aux souvenirs. Il dit même que c'est en fait à travers la rêverie que nous reprenons possession de notre passé, que sans rêve, sans imagination, on ne peut pas revivre quoi que ce soit du passé.
Ce qui veut donc peut-être dire que les vieilles dames qui ont gardé sous ces souvenirs et qui parfois ont l'air d'avoir des souvenirs tellement précis, j'ai eu la chance d'écouter quelques-unes des interviews que vous avez effectuées, mais c'est insensé de voir à quel point les dames se rappellent du nom de leur maîtresse de couture, de leur maîtresse de dessin, du nom de telle copine qui était assise à côté d'elle. Vraiment, est-ce qu'elles ressassent souvent ces souvenirs à l'aide des objets qu'elles ont gardés?
Non, alors ça, je ne crois pas du tout. Je crois que on a retrouvé, enfin on a fait ressurgir des objets qui étaient conservés. On savait très bien qu'on les avait. Ils étaient suffisamment importants pour qu'on les ait trimballés d'un déménagement à l'autre, qu'on ne les ait pas mis à la poubelle. Mais en même temps, on y retourne très très peu. Et souvent, la personne qui ouvrait son carton devant nous refeuilletait pour la première fois son cahier de géographie ou son bulletin scolaire. Mais bon, la question du souvenir très très précis, effectivement, le nom de la maîtresse, le cheminement pour le cortège des promotions, je crois que plus le temps passe, plus on a une mémoire qui devient une mémoire ponctuelle. C'est-à-dire que plus le passé, plus les toutes petites choses, les détails du passé ressurgissent avec une précision terrible, alors qu'on sait plus ce qu'on a mangé une heure avant. Je crois que ça, c'est un phénomène général et que ce n'est pas particulièrement lié à ces objets-ci.
Comment vous expliquez que ce soit plutôt les femmes qui aient gardé ces objets?
Moi, j'ai une explication très terre-à-terre qui est due simplement à la solitude des femmes et au fait que les femmes vivent plus longtemps. Je ne crois pas que si dans nos donatrices, prêtrices, on a plus de femmes que d'hommes, je ne crois pas que c'est parce que les femmes gardent plus que les hommes. Je crois que c'est un pur effet de hasard. Alors, l'autre explication serait que les femmes, en tant que gardiennes du foyer, sont plus proches des souvenirs. Je pense que pour les tout-petits, l'école enfantine, effectivement, ce sont les mères qui gardent. Et là, c'est cette conscience du temps qui passe, c'est peut-être pas très conscient, mais on prépare l'avenir, c'est déjà trop tard, c'est déjà du passé, le petit est déjà trop grand, etc. Donc là, ce sont les mamans. Mais après, ce ne sont pas plutôt les écolières que les écoliers qui conservent.
Vous avez d'ailleurs interrogé des jeunes aussi, pas seulement des personnes âgées. Vous avez cherché à savoir, par exemple, je crois, en vous adressant à des collégiens, si eux-mêmes gardaient leurs souvenirs d'école. Donc si ceux qui sont au-delà des années 60 gardent.
Oui, nous avons, une fois un grand-père a dit « Ah, mais mon petit-fils, il garde tout ». Une autre fois, c'était Christine qui était chez quelqu'un pour prendre des souvenirs d'école et la fille de cette femme est arrivée dans l'entretien et a dit « Oh, mais moi, je garde aussi tout ». Et on s'est dit « Mais tiens, au fond, peut-être qu'on devrait se renseigner et voir ce que font les jeunes d'aujourd'hui ». On imagine comme ça, un peu spontanément et naïvement, que tout ayant tellement changé, il est possible aussi qu'on ne garde plus ces choses, que le savoir devenant de plus en plus rapidement désuet, les images se multipliant, qu'on ne serait plus attaché à tout cela. Alors on a demandé à une classe du collège Claparède de faire une petite enquête dans ce collège, et il s'est avéré qu'en fait, sur 5 classes, je crois, la plupart des jeunes avaient gardé des choses de l'école primaire, qu'il y avait une seule personne qui a dit, sans autre explication d'ailleurs, « Moi, j'ai tout jeté ». Mais la plupart des gens avaient gardé beaucoup de choses, ou découvraient que leurs parents avaient gardé beaucoup de choses. Donc il y a là un comportement très similaire entre des générations très éloignées les unes des autres.
Pour illustrer notre conversation, j'ai choisi des chants d'enfants. Pourquoi des chants d'enfants? Parce que tout à l'heure, nous allons parler d'une animation spéciale de ce week-end au musée d'ethnographie à l'annexe de Conches, entre autres autour de l'histoire du chant. Alors, histoire de tourner la page de notre première cassette, nous écoutons des enfants de la petite école, ces enfants clandestins qui n'ont pas le droit d'aller dans nos écoles à Genève pour l'instant encore.
Somos jovens, somos santos, vimos cantar para vocês. E o leão do nosso grupo Te dua